Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique, Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 24 avril 2014, en direct de Washington, au micro Morgane Guériec et Anne Alberton. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que débute l'audition des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Affaire des bérets rouges disparus au Mali, le général Amadou Ahia Sanogo est désormais poursuivi pour complicité et d'assassinat.
Le général Amadou Ahia Sanogo a nié tous les faits qui lui sont reprochés. Il dit ne rien avoir avec la disparition de ses hommes parce qu'il n'était pas chef militaire au moment des faits.
Attentat à la bombe au Kenya devant un poste de police de Nairobi. Bilan, 4 morts. République démocratique du Congo, on compte désormais 63 morts suite à l'accident de train qui s'est produit mardi dans le Katanga. Et puis, conséquence de la crise ukrainienne, des parachutistes de l'armée américaine ont atterri en Pologne hier. Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant, le journal.
En Côte d'Ivoire, c'est donc aujourd'hui que débute l'audition des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 et des événements sociopolitiques survenus entre 1990 et 2011. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation devrait recueillir les dépositions sur l'ensemble du territoire ivoirien.
Affaire des bérets rouges disparus au Mali, le général Amadou Ahia Sanogo a été écouté sur le fond par le juge d'instruction et les faits ont été requalifiés. On parle désormais de complicité d'assassinat. De Bamako, les précisions de Kassim Traoré.
Devant le juge d'instruction, pour être interrogé sur l'affaire des bérets rouges disparus, le général Amadou Ahia Sanogo a nié tous les faits qui lui sont reprochés. Il dit ne rien avoir avec la disparition de ses hommes parce qu'il n'était pas chef militaire au moment des faits. Après avoir écouté Sanogo sur la complicité dans l'enlèvement des personnes au moment de son arrestation en fin 2013, les charges contre lui ont été requalifiées en complicité d'assassinat. Selon bon nombre de juristes, avec cette nouvelle inculpation, Sanogo encourt la peine de mort, si l'on s'en tient au code pénal malien. En effet, le complice écope de la même peine que l'auteur principal. Il est même considéré le plus souvent comme le donneur des ordres. Les avocats du général Sanogo veulent introduire une demande de mise en liberté provisoire pour leurs clients, alors qu'ils viennent d'être déboutés de leur requête de réquisition du juge Yaya Karambé, lequel doit peaufiner bientôt son rapport final. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
République démocratique du Congo, le bilan augmente suite à l'accident de train qui s'est produit mardi dans le Katanga. On parle d'au moins 63 morts. Les enquêteurs indiquaient hier que des passagers étaient toujours portés disparus. Il semble que le train de marchandises surchargé roulait trop vite quand il a déraillé.
Attentat à la bombe au Kenya. D'après les autorités, l'incident s'est produit hier soir devant un poste de police de Nairobi. On compte 4 morts, dont 2 policiers. La police indique que les policiers se trouvaient à l'intérieur de la voiture qui transportait les explosifs. Cette attaque intervient alors que le pays mène une opération de sécurité à l'échelle nationale à l'encontre des immigrés clandestins, notamment somaliens, et des personnes soupçonnées de terrorisme.
Crise sud-soudanaise, l'ONU met en garde tous ceux qui feraient entrave au processus de paix. Les conséquences seront graves, prévient Hervé Latsou, le patron des opérations de maintien de la paix. Hier, les membres du Conseil de sécurité ont examiné la possibilité d'imposer des sanctions face à l'escalade de la violence entre gouvernement et rebelles au Sud-Soudan.
Nigeria, une organisation de défense des droits de l'homme exhorte le gouvernement à faire plus pour sauver les adolescentes enlevées la semaine dernière dans leur école de Chibok, dans le nord-est du pays. Le groupe Baobab pour les droits des femmes estime que le président Goodluck Jonathan devrait mobiliser des avions militaires pour rechercher les jeunes filles. Le nombre de portées disparues s'élèverait à 230. On pense qu'elles sont retenues captives dans une zone boisée près de la frontière camerounaise. Ces enlèvements n'ont pas été revendiqués, mais les islamistes de Boko Haram sont pointés du doigt.
En Afrique du Sud, l'archevêque Desmond Tutu n'a pas mâché ses mots hier contre l'ANC, et ce, à moins de 2 semaines des élections, Idriss Fall.
Ne votez pas comme des moutons. C'est en substance l'appel que l'archevêque Desmond Tutu a lancé hier aux Sud-Africains à 2 semaines des élections du 7 mai. Il a répété aussi qu'il ne voterait plus pour le Congrès national africain ANC de son ami Nelson Mandela. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, le Nobel de la paix, âgé de 82 ans, ne cache pas sa déception. Au cours d'une conférence de presse à la cathédrale anglicane du Cap, même s'il est officiellement à la retraite, le prélat a lâché des piques cinglantes contre le parti au pouvoir. Nous rêvions d'une société de compassion qui ne peut être une société où les enfants vont se coucher le ventre creux ou ne mangent pas à leur faim. Il a martelé plusieurs fois que c'est une honte en rappelant qu'en janvier dernier, un jeune garçon est mort après être tombé dans les latrines sommaires de son école. Évoquant son ami Mandela et les grands noms de la lutte contre l'apartheid, il a égratigné, sans les citer nommément, les dirigeants actuels de l'ANC, disant au sein de ce parti, il y a des gens bien, il y a des gens médiocres.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Conséquence de la crise ukrainienne, des parachutistes de l'armée américaine ont atterri en Pologne hier. Un déploiement qui marque le début des manœuvres militaires visant à rassurer les alliés européens suite au rattachement de la Crimée à la Russie. D'après le Pentagone, les exercices devraient durer environ un mois. Ils impliquent environ 600 soldats, dont 150 membres d'une équipe de combat aérien basée en Italie. D'autres devraient être déployés en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Ce débarquement intervient alors que la veille, l'Ukraine a annoncé la fin de la trêve avec les séparatistes pro-russes occupant des bâtiments du gouvernement près de la frontière avec la Russie. De son côté, Moscou met en garde. Si les intérêts des citoyens russophones sont attaqués, la Russie se vengera.
Barack Obama en tournée en Asie. Le président américain est au Japon depuis hier. Ce jeudi, il a été reçu par l'empereur Akihito dans son palais. Monsieur Obama s'est ensuite entretenu avec le premier ministre Shinzo Abe. Le programme nucléaire de la Corée du Nord et les disputes territoriales entre le Japon et la Chine seront au cœur du séjour du président Obama. Tokyo et Pékin revendiquent la souveraineté de quelques îlots en mer de Chine orientale. Des escales en Corée du Sud, en Malaisie et aux Philippines sont également prévues.
La commission électorale afghane a annoncé hier soir le report de la publication des premiers résultats de l'élection présidentielle du 5 avril dernier. Nicolas Pino, officiellement, l'instance veut se donner du temps pour enquêter sur les cas de fraude.
Oui, les résultats devaient être publiés aujourd'hui, mais la commission électorale indépendante a reporté leur publication à samedi. Nour Mohamed, son porte-parole, explique que chaque vote légitime sera comptabilisé et tout vote suspicieux éliminé. La vraie volonté des électeurs afghans doit se refléter dans le résultat final, selon lui. Les autorités affirment que ce temps supplémentaire est nécessaire pour s'assurer que les irrégularités soient prises en compte. Près de 7 millions de bulletins ont été enregistrés lors du scrutin. Selon des résultats partiels, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Abdullah Abdullah, serait en tête avec 44% des voix contre 33% pour Ashraf Ghani, ancien économiste de la Banque mondiale. Abdullah était déjà le favori en 2009 lors de la réélection du président Hamid Karzai, qu'il avait dénoncé pour fraude. Quant aux résultats officiels, ils ne devraient pas être connus avant le 14 mai prochain.
Enfin, ici aux États-Unis, on en sait plus sur cet adolescent qui a survécu en début de semaine à un voyage dans le train d'atterrissage d'un avion. Yahya Abdi, qui était en fugue et d'origine somalienne, son père, qui a accordé une interview exclusive à La Voix de l'Amérique, s'estime heureux que son fils soit en vie. Il faut dire que le jeune homme, âgé de 16 ans, s'est exposé à des températures extrêmement froides et à des altitudes particulièrement élevées durant son périple, qui a duré plus de 5 heures.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la VOA, au micro Morgane Guiriec. Le chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre Villiers, est en visite aux États-Unis. À Washington, il a rencontré son homologue américain Martin Dempsey pour évoquer la coopération franco-américaine en Afrique, au Sahel et en Centrafrique notamment. Au micro de Claire Morin-Gibourg, il revient sur l'opération Sangaris en Centrafrique et sur les conséquences du départ des soldats tchadiens de la MISCA.
Le départ des Tchadiens, nous en avons pris acte et nous modifions le dispositif en conséquence. Nous sommes en phase de réorganisation au niveau de la MISCA et le dispositif Sangaris a pris acte de ce retrait et continue son déploiement vers l'ouest après une première phase de sécurisation de Bangui. Nous contrôlons la ville de Bria, très importante, depuis quelques jours. Nous sommes maintenant dans une extension à l'est de notre dispositif.
L'ONU annonce une force de 12 000 hommes. Concrètement, quel pays va pouvoir contribuer à cette force ?
Écoutez, la bonne nouvelle, c'est quand même que effectivement la résolution de l'ONU a été votée et que maintenant on va démarrer le processus de génération de force. Je me réjouis de cette décision. Je crois que ce sera le bon moment à partir du mois de septembre de passer le témoin à une force onusienne parfaitement adapté pour sécuriser l'ensemble du pays. Nous verrons bien comment cette force se met en place. Moi, en tout cas, j'appelle de mes voeux vraiment une pacification des esprits, de façon à ce que la population puisse retrouver une vie paisible, à la fois à Bangui, mais aussi sur l'ensemble du territoire, et que les différentes composantes, les ex-Seleka, les anti-Balaka, et tous ceux qui aujourd'hui ont du mal à vivre ensemble, puissent réapprendre à vivre ensemble avec un État souverain qui se met en place progressivement.
Est-ce que la France peut se retrouver un peu isolée sur ses interventions militaires et être obligée de continuer seule à intervenir dans ces pays ?
Alors, c'est l'inverse qui se produit, puisque les premiers éléments de l'Union européenne sont arrivés sur place et cette opération se met en place, ce qui va nous permettre de pouvoir alléger notre dispositif, en particulier autour de l'aéroport et à Bangui. La MISCA monte en puissance. Je vous rappelle que tout ceci s'est constitué quand même avec un très court préavis et la MINUSMA arrive dès le mois de septembre. Donc moi, je n'ai pas du tout le sentiment que la France soit isolée en Afrique et singulièrement en RCA. Ce n'est pas le cas du tout. En tout cas, ce n'est pas comme ça que nous vivons la situation telle qu'elle se présente dans les semaines et les mois qui viennent.
Le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées françaises.
Jacques Aristide, avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, une spéciale République centrafricaine. Notre collègue Bagassi Koura revient de ce pays et nous livrera ce dont il a été témoin. Comme d'habitude, vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Divers pays africains et les États-Unis ont convenu de coordonner leurs efforts pour lutter contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Cette collaboration est l'une des mesures prises au cours d'une conférence qui se tient à Yaoundé, au Cameroun. Jean-Roger Billon.
Les statistiques fournies par le commandement de l'armée américaine en Afrique sont formelles. Le Nigeria est bien l'épicentre de la piraterie en Afrique de l'Ouest avec 12 attaques et plusieurs enlèvements cette année. Philippe He est l'un des responsables d'Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique.
The criminals are winning. Criminals act with impunity off of African waters.
Les criminels sont en train de gagner, ils agissent avec impunité dans les eaux africaines, ils y pêchent illégalement, ils transportent des drogues illégales, des armes, ils attaquent les bateaux et cela a un impact négatif sur le développement économique de l'Afrique. La réunion de Yaoundé cette semaine comprenait de hauts responsables militaires de la CEDEAO, de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, de la Commission du Golfe de Guinée et d'Africom. Les participants ont convenu de créer un centre régional de coordination pour la sécurité maritime et de le doter de l'armement nécessaire pour faire face à l'insécurité croissante dans le Golfe de Guinée. Le ministre camerounais de la Défense, Edgar Alain Bébé Ngo, dit que son pays a déjà des installations pour accueillir le centre.
C'est véritablement l'institution qui va donc, sur le plan opérationnel, sur le plan pratique, mettre en place toutes les stratégies de lutte contre la piraterie maritime.
Le golfe de Guinée voit passer environ 40% du trafic pétrolier de l'Europe et 29% des produits pétroliers vers les États-Unis. Sans un minimum de sécurité, la région pourrait devenir un autre golfe d'Aden où les pirates somaliens ont fait régner la terreur pendant plusieurs années avant l'intervention des patrouilles navales internationales.
La Voix de l'Amérique, au Cameroun, sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Lutte contre les grossesses précoces et non désirées au Burkina Faso. La récente révélation de nombreuses grossesses dans les écoles primaires et secondaires a mis en état d'alerte les structures médico-sociales et la société civile. Nous écoutons Fatoumata Sanou, présidente de l'association des femmes juristes du Burkina Faso.
particulièrement chez nous, les grossesses non désirées continuent toujours de perturber la scolarité des jeunes filles. Et actuellement, nous venons même de créer un réseau dans ce sens pour donc barrer la route aux grossesses non désirées concernant les adolescentes. Et nous sommes en train donc de mettre en place toute une stratégie. D'où pour nous l'importance de savoir que nous allons continuer avec cette stratégie qu'on a mis en place depuis 1994 pour permettre vraiment de faire toujours le plaidoyer auprès de l'État pour l'augmentation du budget qui va être alloué à la santé de la reproduction et nous permettre donc de continuer cette sensibilisation envers vraiment les femmes, les jeunes et même les hommes. Il n'y a pas longtemps chez nous dans la presse, il est apparu que dans une école primaire, on s'est rendu compte en classe de CM2 où il y a une vingtaine de filles qui sont tombées en même temps enceintes. C'est pourquoi nous prenons vraiment le problème à bras le corps pour éviter que de tels cas vraiment ne se réitèrent. Et nous pensons qu'il faut mettre l'accent actuellement sur les jeunes. Nous mettons l'accent au niveau des établissements privés, les établissements publics, pour sensibiliser donc les jeunes filles, les jeunes garçons, d'abord sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, et également leur expliquer les méthodes de contraception.
Sur la question de l'avortement, une jeune femme qui en est à son 10e enfant et qui est à nouveau enceinte, et puis qui ne veut pas avoir un 11e enfant, elle n'a pas forcément été violée. Est-ce que cette femme a le droit de se faire avorter?
Au Burkina, non. Elle sera en porte-à-faux avec la loi. Elle n'a pas le droit de se faire avorter. Les cas dans lesquels on peut avoir l'avortement sans se heurter à la loi sont clairement définis. Il faut prouver qu'il y a eu un viol, il faut prouver qu'il y a inceste, ou médicalement que cette grossesse va mettre en péril la santé de la femme. Dans tous les autres cas, elle est obligée de porter cette grossesse contre son gré jusqu'à terme. Voilà la question.
Fatoumata Sanou, fondatrice du réseau des femmes leaders africaines pour la santé reproductive et la planification familiale. L'intégralité de cet entretien samedi à 19h30 TU dans le magazine Au Féminin.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Le Hamas palestinien, qui contrôle la bande de Gaza, et son rival de la Cisjordanie, le mouvement Fatah du président Mahmoud Abbas, se sont réconciliés hier. Lors d'une conférence de presse, les deux entités ont promis de former un gouvernement d'unité nationale dans 5 semaines et d'organiser des élections générales dans 6 mois. Les deux camps ont signé des accords similaires par le passé, mais n'ont pas pu les mettre en œuvre. Cette fois-ci, est-elle la bonne ? Timothée Donongmaï a posé la question à Rairi Abaza de la Fondation pour la défense des démocraties, ici à Washington.
Je pense qu'il y a deux éléments très importants qui ont poussé les deux à faire la paix. Premièrement, c'est du côté de Fatah. On voit le manque de progrès au niveau du processus de paix qu'ils ont entamé avec, ou des négociations de paix qu'ils ont entamé avec les Israéliens. Et d'un autre côté, Hamas se trouve extrêmement isolé depuis la chute des frères musulmans en Égypte et aussi la situation en Syrie qui empêche justement le Hamas d'avoir une base solide sur laquelle il peut compter et se replier.
C'est une réconciliation palestinienne qui ne peut être vue que d'un mauvais œil par Israël.
Tout à fait, parce que Israël considère, et d'ailleurs le Premier ministre israélien a fait des déclarations en disant que le Fatah peut faire la paix avec Israël ou bien il peut faire la paix avec Hamas, mais il ne peut pas avoir les deux à la fois. Il faut choisir. Donc là, les Israéliens ont annulé les négociations qui devaient avoir lieu aujourd'hui, mais on voit clairement que les Palestiniens ont décidé de fortifier leur position en créant un front uni à l'intérieur du pays.
Les États-Unis avaient déjà assez de mal à relancer les négociations israélo-palestiniennes. Dans quelle position cette réconciliation palestinienne les place-t-elle ?
Eh bien, on voit qu'il n'y a pas eu de progrès au niveau des négociations. On ne voit pas d'issue claire à cette situation. Donc, autant laisser les Palestiniens s'unir et au moins pour faire une paix avec tous les Palestiniens et pas uniquement avec Fatah et entériner la séparation de Gaza et de la Cisjordanie. Donc, la position américaine est difficile, bien sûr, parce que quelque part, c'est un échec pour une administration qui se voulait garante des négociations, bien qui tentait justement de trouver une solution finale entre les Palestiniens et les Israéliens.
Hayri Abaza de la Fondation pour la défense des démocraties ici à Washington.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le téléphone portable peut être un outil précieux pour l'alphabétisation et la promotion de la lecture. C'est ce qui ressort d'une étude de l'UNESCO, dont les résultats ont été publiés hier à l'occasion de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Réalisée dans 7 pays en développement, notamment le Ghana, le Nigeria, le Pakistan et l'Inde, l'étude cherchait à mieux comprendre dans quelle mesure le téléphone portable est utilisé pour la lecture. Pour des précisions, Timothée Donangmaï a joint David Acho Arena, directeur de la division du développement des enseignants et de l'enseignement supérieur de l'UNESCO à Paris.
Le travail a montré que, en effet, le téléphone portable pouvait être utilisé pour la lecture, pas seulement pour lire des textes, je dirais, courts et relativement simples, mais également pour accéder à des contenus plus élaborés, y compris à des ouvrages, à des romans, à des matériaux didactiques. Le deuxième point qui était particulièrement intéressant, c'est le fait que les usagers du téléphone pour la lecture, à travers cette enquête, utilisent également le téléphone pour avoir accès à des ouvrages permettant de lire également aux enfants. Ce qui était également intéressant comme résultat, c'est que les usagers en fait, du téléphone portable pour accéder au texte, eh bien, à travers cette enquête, nous ont indiqué que leur goût pour la lecture allait croissant à fur et à mesure qu'ils utilisaient leur téléphone pour accéder à des textes. Donc ça, c'est également un résultat important et qui montre que finalement, cet outil, du fait en particulier de sa disponibilité permanente, permet non seulement de soutenir, mais même de développer un goût pour la lecture.
Est-ce qu'il y a quelques exemples d'utilisation du téléphone portable dans ce sens ?
Il y a effectivement des exemples qui se développent dans plusieurs pays pour différentes catégories de publics pour l'utilisation du téléphone portable, que ce soit par exemple pour des publics scolaires, pour l'accès à des didacticiels qui permettent de renforcer par exemple les compétences en lecture ou en mathématiques. Il y a des exemples au Sénégal par exemple dans ce domaine, ou que ce soit pour le développement de matériaux destinés aux enseignants, pour là encore soit les aider dans l'organisation de la planification de leurs cours, soit pour améliorer eux-mêmes leurs compétences. C'est le cas par exemple au Nigeria avec des enseignants de langue anglaise, ou bien encore à travers des programmes qui touchent des publics adultes et qui viennent justement en complément, disons, d'actions d'alphabétisation fonctionnelle, que ce soit notamment pour transmettre des informations liées à la santé, par exemple, comme c'est le cas dans des exemples au Pakistan.
David Acho Arena, directeur de la division du développement des enseignants et de l'enseignement supérieur de l'UNESCO à Paris. Allez, on passe au sport avec Jean-Roger Billon. Bonjour.
Bonjour Morgan.
On commence par la Ligue des champions en Europe.
Oui, c'est le Real de Madrid qui l'a emporté à domicile 1-0 devant le Bayern de Munich à Santiago Bernabéu. Le but de la victoire a été inscrit par Karim Benzema à la 19e minute de jeu.
Le FC Barcelone, lui, pousse un ouf de soulagement.
Sanctionné d'une interdiction de recruter pour un an, le FC Barcelone pourra renforcer son effectif l'été prochain. Suite à la sanction décidée par la FIFA, le Barça a fait appel devant la commission de recours de la FIFA. Face à la durée de la procédure et le fait qu'une décision définitive ne sera pas rendue avant le début du prochain mercato d'été, dans le cas où le FC Barcelone saisit le tribunal arbitral du sport, la FIFA a décidé de suspendre la sanction dans l'attente de la fin de la procédure, fait qui a été demandé par le FC Barcelone dès que l'appel a été interjeté.
Nouveau sélectionneur pour l'Éthiopie.
Plus de deux mois après le limogeage de Seonet Bichow, la fédération éthiopienne a annoncé l'arrivée du portugais Mariano Barreto. Ce dernier est passé par la sélection du Ghana, le Dynamo de Moscou, en tant qu'assistant, ou encore le Maritimo Funchal. Il s'est engagé pour 2 années.
Deux pays se retirent de la course pour organiser l'Euro 2020.
L'Euro 2020, qui sera disputé pour la première fois dans 13 villes européennes de 13 pays différents, ne passera pas par la Pologne. La Fédération polonaise de football, qui avait initialement proposé 2 stades à Varsovie et à Chorzów, a annoncé hier qu'elle retirait sa candidature. La République tchèque avait annoncé une décision similaire un peu plus tôt.
Et on finit sur le basket avec le championnat américain de la NBA. Charlotte, Miami 97-101, Dallas, San Antonio 113-92, Portland, Houston 112-105. Place à la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Le monde de la musique country est en deuil. Kevin Sharp, dont la carrière a explosé dans les années 90, est mort. Il avait 43 ans.
I pretend that I'm glad you went away. But these four walls closing more every day. And I'm dying inside. And nobody knows it but me. Like a clown I put on a show. The pain is real even if nobody knows. And I'm crying inside. And nobody knows it but me.
Kevin Sharp, né en décembre 1970, auteur du tube Nobody Knows, est mort samedi 19 avril des complications chirurgicales liées à des opérations de l'appareil digestif et de l'estomac.
Malade depuis sa jeunesse, puisqu'il était atteint d'un cancer du sang, il avait passé sa vie à se battre contre la maladie et s'était dressé en modèle pour des millions d'Américains. Une grande perte pour les amoureux du country music.
Kevin Sharp, Nobody Knows. Bonne journée, Roger.
Bonne journée à vous aussi, Morgane.
Roger Muntou, que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
I'm missing you, and nobody knows it. That's my heart. Just like a jigsaw puzzle, it's been torn all apart. A million words couldn't say just how I feel. A million years from now, you know I'll be loving you still. Nights are lonely, the days are so sad. And I just keep thinking about the love that we had. I'm missing you, and nobody knows it but me. Nobody. Nights are lonely, the days are so sad. No one knows. Just keep thinking about the love that we had. Nobody knows. Nobody knows it but me. That I'm glad you went away.
and I put on a show. The pain is real, even if nobody knows. And I'm crying inside, and nobody knows it but me. Why didn't I say the things I needed to say? How could I let my angel get away? Now my world is just a...
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guériac au micro. Je vous souhaite une excellente journée.